Nous allons poursuivre par notre sujet principal qui va porter aujourd'hui sur les messageries instantanées, notamment suite aux polémiques autour de WhatsApp. Nous allons parler donc de WhatsApp, de Telegram, de Signal, d'XMPP, de Jamie, de décentralisation, de gouvernance. Ne vous inquiétez pas, les invités vont vous expliquer ça de façon toute simple, enfin tout le plus simple possible. Nos invités, justement, en studio avec moi, Adrien Bourmeau. Bonjour Adrien.
Bonjour.
Au téléphone, normalement avec nous, Emmanuel Gilles Perrault. Bonjour Emmanuel.
Bonjour.
Et Nicolas Vérité. Bonjour Nicolas.
Bonjour Fred, bonjour Adrien, bonjour Emmanuel.
Bon, parfait, tout le monde est là. Je précise que Adrien, donc Bourmeau, a proposé ce sujet sur les messageries instantanées et là, en grande, très grande partie, majeure partie même préparée. Donc je vais jouer un rôle plus d'animateur, même si évidemment je me suis un peu penché quand même sur la question, parce que je vais pas juste me contenter de lire des fiches, même si j'ai une fiche sous les yeux. Alors n'hésitez pas à participer à notre conversation hein, sur le salon web dédié à l'émission, donc sur le site causecommune.fm, bouton de chat, et vous nous rejoignez sur le salon Libre à vous, si vous avez des questions ou des réactions sur ce sujet. Alors, début d'année 2021, l'application de messagerie instantanée WhatsApp a publié un message pour avertir les personnes utilisatrices de l'application que ses conditions d'utilisation allaient changer et qu'elles impliqueraient désormais d'accepter de partager davantage de données avec Facebook, à qui appartient WhatsApp, je le rappelle, depuis 2014, dans un but commercial. Et en cas de refus, les personnes ne pourraient plus utiliser la messagerie à partir du 8 février 2021. Donc il y a eu une levée de bouclier contre cette pratique et on va revenir en détail en début d'émission. Ça concerne a priori à peu près 2 milliards d'utilisateurs et d'utilisatrices concernés. Et des messageries alternatives, enfin autres messageries comme Telegram et Signal... j'ai eu un petit bruit dans le casque, je sais pas ce que c'est, mais c'est pas très grave. Des messageries comme Telegram et Signal ont vu arriver des millions d'utilisateurs et d'utilisatrices. Donc on va parler de tout ça. Mais on va commencer d'abord par une petite présentation individuelle rapide des trois personnes invitées. On va commencer par les personnes qui sont au téléphone, donc on va commencer par Nicolas Vérité.
Bien, alors je me présente, Nicolas et Vérité, comme la vérité. Donc j'étais contributeur, je suis toujours contributeur du monde XMPP. Alors on va détailler ce que c'est plus tard, mais j'étais dans la XSF, donc la XMPP Standard Foundation, la fondation qui gère l'évolution du protocole. Alors attention, c'est très technique. Donc, je fais partie de la board of directors, de la com team, enfin de diverses teams. J'ai essayé de participer à la communauté Jabber FR. Puis j'ai travaillé de manière professionnelle autour du monde du XMPP. Et puis accessoirement, j'étais aussi le président de linuxfr.org, que vous connaissez bien, pendant une dizaine d'années. Voilà.
Bah écoute, merci pour cette présentation. Et effectivement, linuxfr.org est le site principal francophone d'information autour du logiciel libre. Et si vous ne connaissez pas, je vous encourage à aller, car vous serez informé de toutes les actualités autour du logiciel libre. Donc linuxfr.org. Deuxième petite présentation, donc toujours au téléphone, Emmanuel Gilles Perrault.
Bonjour. Du coup, moi, c'est Emmanuel, ou Linkmo, comme beaucoup de gens me connaissent sur Internet. J'ai aussi été, je suis toujours d'ailleurs, membre de la XSF, et en ayant été notamment membre du Council, le groupe élu pour la gouvernance des protocoles et son évolution. Je suis également président et administrateur de l'association JabberFR pour la promotion des messageries instantanées libres, standards et ouvertes. Donc on fournit aussi des services autour de XMPP. Et je suis également contributeur à différents clients et serveurs XMPP, notamment Gajim, Prosody, si vous les connaissez.
Ok, merci Emmanuel. Et on va finir par donc en studio Adrien Bourmeau.
Oui, alors moi c'est Adrien Bourmeau, donc je suis co-animateur du service XMPP du Chapril, groupe de travail initiative de l'April faisant partie des Chatons. Je suis également mainteneur de l'entrée de Conversation, l'application Conversation, dans le Free Software Directory, c'est-à-dire le dictionnaire de l'AFSF des logiciels libres.
Eh bien, écoute, merci Adrien. Alors, je précise aux auditeurs et auditrices de l'émission que vous allez entendre beaucoup de mots-clés. Ne vous inquiétez pas, les personnes vont expliquer et résumeront en plus en fin d'émission l'essentiel à retenir. Et de toute façon, sur le site en plus de april.org et sur causecommune.fm, il y aura une page avec toutes les références utiles consacrées à l'émission, donc ne vous inquiétez pas. Alors, on va commencer par la première partie de notre échange, qui va être l'introduction, hein, qui va être la polémique WhatsApp. Alors, je précise d'ailleurs qu'il y a déjà une réaction sur le salon web de Jean-Luc qui précise que les changements de conditions d'utilisation de WhatsApp ne concernaient a priori que les utilisateurs hors d'Europe. Effectivement, vu que en Europe, ce n'est pas concerné a priori suite au RGPD, donc le règlement général de la protection des données. On va revenir dessus. Après, ça se discute et de toute façon, entre ce qui est annoncé et ce qui est fait dans la réalité, ce sont deux choses souvent différentes dans ces systèmes privateurs. En tout cas, on va commencer par la polémique WhatsApp. Donc peut-être Adrien, tu vas commencer de nous rappeler, c'est quoi cette polémique WhatsApp concrètement ? Qu'est-ce qui a été annoncé et quels sont les problèmes ? Pourquoi ça a généré autant de bruit, en tout cas sur certains réseaux et dans la presse ?
Oui, alors en fait c'est une polémique qui est née d'un changement de virgule, si on pouvait résumer ça. En fait, depuis 2016 déjà, WhatsApp partageait énormément de données avec Facebook, étant donné qu'ils avaient été rachetés en 2014. Et rapidement, les conditions d'utilisation de WhatsApp incluaient des partages de données avec Facebook. Simplement, ce partage de données n'était pas totalement clair. En fait, les conditions d'utilisation étaient assez opaques et il était difficile de comprendre qu'est-ce qui était vraiment partagé. Le changement qui est arrivé cette année rend plus clair les données collectées et en comment elles sont partagées avec Facebook. À ceci près qu'elle supprime également un point essentiel qui était qu'on pouvait refuser jusqu'alors le partage des données avec Facebook par une option dans l'application. Cette option disparaît totalement et il est donc plus possible de ne pas partager les données avec Facebook. L'autre chose qui s'ajoute, c'est la création du partage de ces données personnelles par la vente à des comptes WhatsApp Business qui permettrait en fait à des professionnels de pouvoir faire de la publicité ciblée simplement en achetant à WhatsApp des packs de contacts ou de données, qui sont normalement anonymisées évidemment, mais comment elles sont-elles anonymisées, nous utilisateurs ne pouvons pas le savoir. Donc simplement, en fait, ce que cette polémique nous montre, c'est que leur changement de virgule qui était censé rendre plus clair les conditions et peut-être aider à la popularité de WhatsApp et à ce que leur image soit améliorée, a été complètement contre-productif et a mené à la polémique qu'on connaît.
D'accord. Alors, pour compléter, Emmanuel Gilles Perron, ou Nicolas, si tu dis Nicolas Vérité, sur la situation, sur la polémique WhatsApp, pour que les gens comprennent bien ce qui s'est passé, parce que je suppose que parmi les auditeurs et auditrices, il y a des gens qui utilisent WhatsApp, mais pas forcément tout le monde. Donc juste pour bien comprendre, au moins peut-être que le résumé d'Adrien a été parfait. Nicolas.
Oui, le résumé d'Adrien a été parfait de toute façon. je vais juste paraphraser en disant que ouais, c'est un changement de virgule, effectivement. En fait, on connaît très bien l'appétence pour Facebook et donc Instagram et WhatsApp à sucer les données, les mettre dans un puits sans fond et les exploiter. Donc, à des buts mercantiles, bien évidemment, c'est pour afficher de la publicité. Donc qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a une réaction populaire en fait, et ça c'est pas complètement maîtrisé. À mon avis, ça ressemble à c'est un ensemble de faits qui ont tous convergé entre eux. Il y a eu la censure, ou plutôt le bannissement de Trump et de ses partisans sur cette plateforme. Donc peut-être que ça indique un ras-le-bol, une peur de la censure, de l'exploitation des données. C'est comme ça que moi je le lis en tout cas. Emmanuel, t'as peut-être un avis différent.
Non, je le partage plutôt bien. C'est vraiment il y a eu un tout qui s'est fait à ce début d'année, où il y a vraiment eu énormément de gens qui ont été à la fois victimes et à la fois spectateurs de ces de différentes plateformes qui contrôlent les communications. Et comme quoi, c'était très problématique, quoi. De leur donner autant de pouvoir sur nos vies, sur nos processus de décision, sur nos sur les personnes avec qui on peut entrer en contact, par exemple.
D'accord. Donc, Adrien, tu veux réagir ?
Oui, je repense justement à la question sur les conséquences de ces changements sur l'Europe. Il y a bien un changement sur l'Europe, hein, il n'y a pas de problème là-dessus. Simplement, c'est moins franc qu'avec les autres pays. En Europe, en fait, on est protégé par le RGPD, hein, Règlement Général de Protection des Données, qui limite un petit peu la casse. Le problème étant que on ne pourra pas, avec le RGPD, vendre des données, en tout cas WhatsApp ne pourra pas vendre des données à n'importe qui, à des tiers par exemple. Ils seront obligés de vendre intra-WhatsApp. Ce qui va se passer, en fait, c'est qu'en Europe, il y aura quand même de la vente de données, surtout de la vente de listes de contacts, mais qui se fera via les comptes WhatsApp Business. C'est-à-dire qu'une entreprise possédant un compte sur WhatsApp Business pourra acheter une liste de contacts. Mais ça ne pourra pas être vendu, par exemple, à Google, ou ça ne pourra pas être vendu à un publicitaire extérieur. C'est la seule nuance que le RGPD nous enlève.
D'accord. Alors, si je comprends bien, et je vais citer l'Electronic Frontier Foundation, qui est la fondation américaine qui se bat pour les libertés informatiques, qui a réagi, qui dit en fait la bonne nouvelle est que globalement cette mise à jour ne fait aucun changement extrême dans la manière dont WhatsApp partage ses données avec sa société mère Facebook. La mauvaise nouvelle est que ces changements extrêmes ont en fait eu lieu il y a 4 ans. Et donc en fait la fondation, donc Electronic Frontier Foundation, estime que cette réaction actuelle est due en fait à la grande partie que les gens ont donc découvert qu'en fait ces changements, donc ils n'avaient pas forcément confiance, lapsus révélateur, conscience. Donc en fait c'est un défaut de communication et que les gens finalement se sont rendus compte de ce qui se passait depuis quelques années en fait, et que ce qui allait changer n'était finalement que à la marge, une virgule comme tu as dit, Adrien.
Oui, oui, c'est ça, exactement.
D'accord. Est-ce que sur cette introduction, quelqu'un veut rajouter quelque chose ? J'ai bien vu la question sur le salon web de Sarah, et on va la prendre justement, c'est le sujet d'après. Donc est-ce que sur la polémique WhatsApp, est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose ?
Ouais, il y a un signal fort,
Vas-y, Emmanuel.
Là-dessus aussi, c'est Brian Acklin, un des cofondateurs de WhatsApp qui a été racheté donc par Facebook, s'est éclipsé de son rôle justement dû à des clashs sur l'exploitation des données avec Mark Zuckerberg. Et plus tard, il a rejoint le bateau Signal. Donc ça, c'est un signal fort. Voilà, si vous pouvez, vous pouvez m'autoriser à parler ainsi.
Je t'autorise tout à fait, surtout que ça va être le sujet d'après. Donc effectivement, on va parler de Signal. Et alors, je me souviens plus du nom donc de l'un de ses cofondateurs de Facebook qui a participé au financement de Signal il y a quelques années. Donc on va prendre la question d'ailleurs, en fait, vu que le sujet suivant, c'est Signal, Telegram, les alternatives. Donc suite à la polémique WhatsApp, des utilisateurs et utilisatrices se sont tournés vers des alternatives, alors considérées communément comme peut-être plus éthiques, plus libres que WhatsApp. Et la question de Sarah notamment, c'est donc qu'on est d'accord que ce changement de condition, ou du moins le bad buzz autour de ça, même compris, a lancé une grande vague vers des alternatives type Signal. Est-ce que ça a été le cas avec Telegram ou avec d'autres systèmes ? Donc, on va détailler ce qu'est Signal et Telegram. De mémoire, Signal a dû voir... on parle de millions d'utilisateurs et d'utilisatrices qui ont rejoint Signal ou Telegram. Donc, on va commencer par ces deux alternatives. Celle qui a sans doute été fait plus de buzz, ben, c'est Signal. Qui veut commencer par présenter, donc, justement... Ah, mais attends, par contre, j'ai oublié une question qu'on avait prévue dans l'introduction. On parle de messagerie instantanée. Mais il serait bien quand même de définir ce qu'on entend aujourd'hui par messagerie instantanée pour la majorité des utilisateurs et utilisatrices. Est-ce que, Adrien, peut-être que tu veux faire ça ? Ouais ?
Oui, bah alors, il y a plusieurs définitions possibles, j'imagine, mais aujourd'hui, quand on parle de messagerie instantanée, on parle d'un dispositif qui permet d'envoyer des messages de façon à pouvoir soutenir par écrit une conversation interactive. Je pense que c'est comme ça qu'on peut le définir. Par exemple, le mail ne rentre pas dans la discussion instantanée, puisque ce n'est pas instantané, on a besoin d'attendre une réponse. Même on peut même parfois attendre l'envoi, et il n'y a pas de sûreté de la réception dans un temps donné. Ce que nous permet la messagerie instantanée, normalement, c'est de pouvoir soutenir une conversation dans le temps réel. Donc j'imagine que c'est comme ça qu'on pourrait le définir.
Alors, c'est une définition, mais dans les fonctionnalités, parce que moi je connais pas WhatsApp, donc je me suis quand même posé la question de savoir quelles fonctionnalités il y avait. Là tu parles de messages, on peut imaginer que c'est des messages texte type SMS, mais en gros dans les fonctionnalités de ce type de messagerie aujourd'hui dont les gens ont besoin, parce que c'est le plus important, c'est ce qu'ont besoin les gens en fait. C'est donc des messages textuels, mais il y a aussi, je crois bien, des notions de groupe pour parler à plusieurs. Il y a des échanges de fichiers, donc images, vidéo, et est-ce qu'il y a aussi des appels téléphoniques qu'on peut passer par ces messageries instantanées?
Oui, en effet, les gens ont plusieurs besoins, ça dépend évidemment des groupes de personnes, mais effectivement aujourd'hui la messagerie instantanée la plus communément répandue comme définition, ce sera effectivement la possibilité d'avoir des conversations un à un, des groupes privés, peut-être parfois des salons publics, la possibilité de faire des appels audio ou vidéo, de partager des fichiers, des images, des vidéos, enfin voilà. C'est effectivement partage multimédia en fait, hein, tout simplement.
D'accord. Nicolas, Emmanuel, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur cette notion de, enfin, cette définition, tentative de définition d'une messagerie instantanée de nos jours ?
Oui, tout à fait. Alors moi, j'ai juste un petit truc. En fait, oui, on est sur des messages courts, temporaires, parfois enregistrés ou archivés, et donc ça nous permet d'être plus réactifs, plus rapides dans une conversation. Moi, je vais différencier deux grands types de messagerie instantanée. Si les gens me le permettent. En fait, il y a une génération qui a explosé donc au début d'Internet, c'était la messagerie instantanée sur ordinateur. Donc, on peut citer les anciens ICQ et MSN propriétaires. Puis il y a eu la génération mobile. Donc on est tout passé en mobile quand il y a eu l'avènement de l'iPhone. Donc c'est WhatsApp qui a tout remporté, tous les suffrages. Il y en a eu d'autres qui ont suivi derrière, dont Telegram et Signal. Aujourd'hui, depuis une dizaine d'années, un peu moins, c'est une dizaine d'années, on voit une génération de messagerie instantanée orientée entreprise. Donc là, il s'agit de mettre la conversation de groupe au centre pour la collaboration des collaborateurs de l'entreprise.
D'accord. Ok, ça, ce point est aussi effectivement intéressant, même si aujourd'hui, on s'adresse plus effectivement potentiellement à des personnes des usages personnels. Effectivement, il y a cet aspect entreprise qui est important. Alors on va parler justement donc de Signal Telegram. On va commencer par Signal parce que alors j'ai retrouvé les chiffres. Alors, la base installée serait passée de 10 millions à plus de 50 millions en quelques heures. Alors, on est évidemment très loin des 1,5 ou 2 milliards d'utilisateurs et d'utilisatrices de WhatsApp. Mais en tout cas, il y a une vraie grosse migration vers Signal. Alors, déjà, première question, c'est quoi Signal ? Et deuxième question qui suivra, pourquoi les gens ont commencé à migrer vers Signal ? Et après, on parlera de Telegram. Donc, peut-être, c'est quoi Signal ? Peut-être Emmanuel ? Gilles Perrault ?
Oui. Moi, je voudrais ajouter d'abord à quelque chose d'autre avant, à propos de la messagerie instantanée, qui est que contrairement à l'email, on a traditionnellement des différents services pour la messagerie instantanée. C'est-à-dire que quelqu'un qui va être chez WhatsApp, par exemple, ne va pas pouvoir communiquer avec quelqu'un qui est chez Signal ou Telegram ou tout ça. Et c'est quelque chose qui a été choisi au fil du temps par les différentes grandes entreprises qui possèdent ces outils de communication. Mais qui n'a rien du tout d'inné. C'est vraiment un choix technologique qui a été fait. Et ça fait du coup une surabondance de différents protocoles, différents logiciels qu'on doit installer sur nos téléphones, par exemple, pour communiquer avec les différentes personnes qu'on a autour de nous.
D'accord.
Et donc Signal, c'est une autre alternative, effectivement, à WhatsApp ou à n'importe quelle autre application de messagerie instantanée qu'on a mentionné juste avant et qui a du coup pour avantage d'être géré par une association contrairement à une entreprise, contrairement à WhatsApp notamment qui est géré maintenant par Facebook, et qui promeut énormément la confidentialité des messages en disant qu'ils n'ont pas accès au contenu des messages, qu'ils n'ont pas accès au groupe des gens avec qui on communique, qu'ils n'ont pas accès à énormément de choses et qu'ils surtout ne gardent aucune trace de ces échanges. Donc, encore une fois, c'est une question de confiance qu'on va avoir envers la plateforme.
Donc, si je comprends bien, donc Signal, c'est pas simplement une alternative qui repose sur le même système privateur que WhatsApp. Donc, c'est déjà, comme tu le dis, donc c'est géré par une fondation à but non lucratif, alors que WhatsApp, bah, comme tu le dis, appartient à Facebook et avant, c'était déjà une entreprise. Il y a du chiffre, si je comprends bien, il y a du chiffrement bout en bout avec un chiffrement qui utilise un protocole qui est connu, testé, ouvert. Et je pense que je laisserai réagir les experts sur le sujet. Notamment sur cette partie-là. Par contre, ça reste un outil centralisé. Est-ce que sur ces deux points-là, qui veut réagir ? Nicolas, Adrien ?
Ouais, je veux bien.
Ah, Nicolas d'abord.
Qui parle,
Avantage au téléphone.
Avantage au téléphone, bon, merci beaucoup. Effectivement, c'est du open source. Alors, par contre, il y a deux outils. Une entreprise également. Il y a une fondation, mais il y a aussi une entreprise. En fait, l'histoire de Signal a été mouvementée. Hein. C'est passé par plusieurs noms, plusieurs implémentations. Ça a périclité, c'est revenu sous forme de fondation. Effectivement, ça utilise du chiffrement. Alors, c'est comme ça qu'on dit strictement du chiffrement. Sinon, on appelle ça du crypto. Voilà, c'est crypté, c'est chiffré. Effectivement. Et c'est centralisé. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'un seul serveur, Signal, qui est situé aux États-Unis d'ailleurs. Contrairement à des réseaux comme XMPP ou l'email. On a un serveur sur lequel on a 10, 20 ou 100 000 utilisateurs qui peuvent parler avec d'autres personnes sur d'autres serveurs. Ça, ce sont des réseaux de type décentralisé. On n'est pas centralisé, on est décentralisé. Et les serveurs communiquent entre eux. C'est-à-dire que tous les utilisateurs de chacun des serveurs peuvent communiquer entre eux, on appelle ça de la fédération.
D'accord, alors on abordera évidemment ces points décentralisation, fédération, mais on va poursuivre sur Signal et sur la partie centralisée. Tu as dit donc qu'il y avait donc, pour que les gens comprennent bien, donc il y a un serveur, en tout cas un serveur, il y a signal.org sur lesquels les gens s'inscrivent, avec des serveurs qui sont hébergés, tu viens de dire aux États-Unis. Alors peut-être pour être plus précis, je crois qu'avant de préparer, en préparant l'émission juste avant, Adrien était encore plus précis que ça. Donc Adrien, ils sont où ces fameux serveurs de la Fondation Signal ?
Alors oui, en fait, il n'y a pas un seul serveur, mais il y en a trois qui sont en cluster. Notamment donc un premier serveur, celui qui sert à la connexion à signal.org et à la création de son compte. C'est un serveur qui est hébergé chez Amazon Web Services. Ça, c'est le premier serveur. Le deuxième, donc aux États-Unis évidemment, hein, le deuxième aussi aux États-Unis, qui sert à héberger les conversations de groupe, qui est chez Google, Google Cloud, qui est donc hébergé là-bas en tant que machine virtuelle. Et le troisième serveur chez Microsoft Azure, qui lui sert à gérer les grosses quantités de fichiers, ce qu'on appelle un Content Delivery Network, qui permet donc téléchargement de fichiers, passage de grosses données, voilà, des choses comme ça, partage de fichiers et parfois aussi de vidéos, parce qu'il y a aussi un serveur turn là-dessus. Donc oui, les trois sont aux États-Unis. Je rebondis sur une question que j'ai vue dans le chat sur la gouvernance en fait de Signal. Signal est présenté beaucoup dans les médias comme étant une fondation à but non lucratif. C'est vrai, il y a une fondation Signal, mais c'est pas elle qui paye les employés de Signal, et c'est pas elle non plus qui possède la propriété intellectuelle du code qui est marquée sur la licence, le fameux copyright. En fait, c'est la société Signal Messenger LLC, une société à responsabilité limitée, de droit américain, qui est financée en grande partie par la fondation Signal, mais pas seulement, il y a aussi des investisseurs extérieurs, elle n'est pas cotée en bourse, encore heureux, mais il y a des possibilités d'investir. Du coup, il y a bien une société derrière, à responsabilité limitée, et donc à but lucratif, il ne faut pas l'oublier. La fondation Signal ne sert qu'à recevoir des dons défiscalisables selon le droit américain.
D'accord, ça c'est important. On va aussi parler, parce que sur le salon web, il y a PETA ou PETA, je ne sais pas du tout comment ça se prononce, excusez-moi, qui parle de la licence du serveur, parce qu'on va... Enfin, quand je parle du serveur, je fais une simplification. Évidemment, il y a beaucoup plus qu'un seul serveur qui gère tout ça, il y a beaucoup plus de machines, mais on fait une simplification pour que ce soit plus simple. Juste préciser donc que l'application qu'on utilise sur le téléphone pour Signal est une application qui est en logiciel libre. Par contre, le serveur et la partie logicielle sur le serveur n'est pas du tout sous licence libre, c'est bien ça ?
Non, en fait, si, le serveur est libre, mais il y a une énorme latence entre la publication de mise à jour sur le serveur et la publication du code. Donc en fait, il y a une partie du temps où, après une mise à jour du serveur, bah, le serveur est propriétaire avant que le code soit publié.
D'accord, je crois qu'Emmanuel veut réagir aussi là-dessus ?
Oui, notamment Vas-y. Parce que le code du serveur n'a aucune garantie sur le fait que ce soit effectivement celui qui est utilisé ensuite chez Signal. Et c'est un énorme problème qui est en fait partagé par la grande majorité des messageries, puisque dès qu'il y a un serveur, en fait, l'administrateur du serveur peut faire les modifications qu'il veut, en fait.
D'accord.
Bon, il est obligé de refaire son code, mais par contre, on a GPL, on est sur une licence AGPL, donc Affero GPL V3, donc c'est-à-dire qu'on est obligé de refournir le code si on veut exploiter le serveur. Maintenant, si on exploite un serveur, si on met en œuvre un serveur Synanist, un serveur Signal, on n'aura que quelques utilisateurs autour de nous, notre famille, nos proches, etc. Et ce serveur ne sera pas interconnecté avec le serveur officiel de signal.org.
D'accord. Alors, je crois qu'on comprend bien que c'est l'intérêt qu'il peut y avoir pour des utilisateurs et utilisatrices au niveau de Signal, ce côté centralisation qui peut permettre de retrouver plus facilement effectivement ses amis. Alors, Signal a bénéficié de soutien de poids, de coups d'accélérateur, on pourrait dire. Alors, il y a Elon Musk récemment, et je crois que Luc va en parler dans sa chronique après. Mais beaucoup plus important, à mon sens, c'est Edward Snowden, le lanceur d'alerte, qui, alors je ne sais plus si c'est dès 2014 ou 2015, mais disait et encourageait les gens à utiliser Signal. Donc, est-ce que, à votre connaissance, est-ce qu'Edward Snowden, donc lanceur d'alerte américain, qui a révélé des pratiques ou mis en révélé des documents qui montraient l'ampleur de la surveillance américaine, est-ce qu'il utilise encore Signal ? Et finalement, pourquoi un tel lanceur d'alerte dit qu'il faut utiliser Signal ?
Oui, alors il utilise toujours Signal, il le conseille même encore. Alors, là où on peut se poser quand même des questions, c'est que son argument principal est « j'utilise Signal parce que je ne suis pas encore mort ». Alors, on peut se poser la question de, ça veut dire, est-ce qu'il a une totale confiance ou est-ce qu'il dit ça de façon cynique ? Je ne sais pas trop, moi je suis pas là pour analyser les propos d'Edward Snowden. Mais il l'utilise encore, mais il n'utilise pas uniquement ça, il utilise aussi IRC à des moments, et puis il parle aussi via XMPP avec l'EFF.
L'EFF, c'est Electronic Frontier Foundation, dont je parlais tout à l'heure. Sur cette position par rapport au Snowden Signal, Emmanuel et Nicolas, vous voulez ajouter quelque chose ?
Non, Snowden se protège de toute lecture de ses messages par du chiffrement. Donc en fait, il pourrait avoir l'équivalent sur une autre application, par exemple sur XMPP.
Et je voudrais ajouter aussi que la méthode de chiffrement qui a été créée par Signal, donc qui s'appelait à l'époque Axolotl, de nos jours Signal Protocol, a été réutilisé notamment par WhatsApp, qui l'a intégré dans son système de chiffrement de la messagerie, suite à justement aux révélations de Edward Snowden, pour en fait faire un peu de taire les polémiques autour de ça, autour du fait que Facebook pouvait du coup accéder à tous les messages de tous les utilisateurs de WhatsApp. et ça a été utilisé aussi par par d'autres, notamment le protocole qu'on appelle OMEMO sur XMPP utilise le même protocole, le Signal protocole, mais on n'est pas du tout les seuls parce que c'est complètement c'est intégrable dans d'autres dans des protocoles de nos choix en fait.
Oui, et puis c'est un protocole qui est publié, qui donc a subi des analyses, etc., contrairement à des protocoles de chiffrement privés ou qui ne sont pas publiés, dans lesquels finalement la sécurité repose exclusivement dans la confiance qu'on a dans la structure, qui sont souvent des entreprises qui sont basées en fait sur la publicité, sur nos données personnelles. Donc, alors on va faire une pause musicale parce que le temps passe vite. Oui, ah, vas-y, tu veux rajouter quelque chose ?
T'as raison, ce protocole de chiffrement, il est libre, mais il n'est pas standardisé. Ça veut dire qu'il y a plein de pairs d'yeux d'experts qui ont revu ce protocole. Donc ils l'ont amélioré, donc il est relativement fiable. Par contre, il n'a jamais été standardisé. Donc ça peut poser éventuellement problème.
D'accord. Alors, on va faire une petite pause musicale et on se retrouve juste après. Donc nous allons poursuivre notre découverte de Vexento. On va écouter Shifting Winds. On se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles.
Cause Commune.
Nous venons d'écouter Shifting Winds par Vexento, que vous pouvez retrouver sur le site de l'artiste, hein, soundcloud.com/Vexento, donc V-E-X-E-N-T-O, qui est disponible sous licence libre Creative Commons Attribution, CC BY. Vous écoutez toujours l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune, La Voix des Possibles, 93.fm et en DAB+, en Ile-de-France, partout dans le monde sur le site causecommune.fm. Nous discutons actuellement avec Adrien Bourmeau, Emmanuel Gilles Perrault et Nicolas Vérité de messagerie instantanée. Avant la pause musicale, on a parlé de la polémique WhatsApp. On a ensuite parlé un petit peu de Signal sur lequel beaucoup de personnes ont commencé à migrer. Et à un moment, vous avez entendu des termes comme décentralisation, fédération, gouvernance. Et donc là, on va aborder le sujet, alors peut-être le plus compliqué de l'émission, parce que quelque chose, sans doute, vous n'avez pas l'habitude, qui est donc la décentralisation et d'autres solutions alternatives à Signal. On reviendra sur Signal tout à l'heure, parce que j'ai bien vu la question de Marie-Odile sur le salon web. Alors je précise, n'hésitez pas à venir sur le salon web de la radio, parce que alors aujourd'hui c'est festival, hein, ça, y a une discussion parallèle sur le salon web, donc site causecommune.fm, bouton de chat, vous allez sur le salon Libre à vous, il y a des échanges en parallèle, donc c'est très intéressant. Alors, on va donc maintenant aborder la question de l'alternative, on va dire véritablement libre, décentralisée. Et notamment le mot-clé qu'on a déjà entendu tout à l'heure, XMPP. Alors, qui veut commencer par expliquer un petit peu, voilà, c'est quoi cette, la décentralisation par rapport donc aux solutions dont on a vu tout, jusqu'avant, qui est des solutions centralisées. C'est quoi la décentralisation? Peut-être Adrien, qui ou Nicolas, je sais pas. Adrien? Nicolas? Bon, Nicolas, Adrien me fait un signe, donc Nicolas. Nicolas Vérité.
Alors oui, la décentralisation, c'est un bien grand mot, et puis ça paraît un peu barbare. On dit que les gens n'ont pas forcément l'habitude, peut-être qu'ils en ont l'habitude, en fait, la décentralisation dans un contexte générique, c'est-à-dire un État décentralise à travers une fédération, par exemple, d'États ou de départements ou de régions. Bah, ça, c'est, on sait ce que c'est la décentralisation. Qu'est-ce que c'est au niveau technique, la décentralisation? Soit on a un serveur massivement centralisé, où il y a un milliard d'utilisateurs. Donc, si ce serveur tombe, c'est tout le monde qui est privé de ce service. Si ce serveur est piraté, c'est tout le monde qui est impacté. Et si ce serveur se retrouve avec des données volées ou envolées, c'est tous les utilisateurs qui sont impactés. Donc l'idée, c'est de diviser, non pas diviser pour mieux régner, mais diviser pour que personne ne règne. Donc en gros, on va faire plusieurs serveurs qui vont communiquer entre eux. Donc ça veut dire que chaque utilisateur sera sur un serveur, pourra communiquer avec tous les utilisateurs du réseau sur chacun des serveurs, sur tous les serveurs. C'est-à-dire que ici, un serveur tombe, un serveur de 10 ou de 1000 utilisateurs, c'est seulement ces 10 ou ces 1000 utilisateurs qui sont impactés. Si ces données sont volées, c'est seulement ces utilisateurs qui sont impactés. Est-ce que cette intro vous convient?
Alors, cette intro me convient, et je vais laisser quand même Emmanuel, évidemment, et Adrien, excusez-moi, compléter, mais en fait, oui, comme tu le dis, en informatique, il y a quand même un aspect décentralisation que les gens connaissaient, ou même s'ils le connaissent peut-être de moins en moins, c'est le courriel dont parlait tout à l'heure à Adrien. Quand on s'envoie un courriel, en fait, on peut envoyer un courriel à d'autres personnes qui sont hébergées ailleurs que chez nous. Alors, je dis que c'est de moins en moins le cas, parce que malheureusement, il y a de plus en plus de gens qui sont chez Gmail et compagnie. Mais en tout cas, oui, effectivement, c'est une décentralisation qui est connue. Est-ce que, Emmanuel, tu veux compléter cette partie, juste sur la partie décentralisation, avant qu'on aborde XMPP en tant que tel?
Oui, bien sûr. L'exemple du mail est vraiment très frappant parce que on est tous... pour nous, c'est vraiment... normal en fait qu'on n'est pas obligé d'être qu'on soit pas obligé d'être chez un fournisseur en particulier, Gmail comme tu le mentionnes, mais on peut très bien être chez Free ou chez Yahoo ou tout ça, et quand même pouvoir communiquer avec quelqu'un qui est chez Gmail. On peut aussi avoir chacun notre propre service à la maison. J'avais commencé d'ailleurs suite à la conférence de Benjamin Bayard sur Internet Libre ou le Minitel 2.0, qui nous incite en fait à chacun avoir notre propre serveur à la maison, que c'est pas beaucoup plus compliqué que d'avoir un ordinateur quelconque, et que ça permet d'avoir de reprendre en main en fait nos communications.
D'accord. Alors pas beaucoup plus compliqué, je suis pas tout à fait sûr, ça dépend évidemment des compétences, mais effectivement l'auto-hébergement est aussi quelque chose dont on parlera un jour en détail dans l'émission. Mais là, on va revenir là sur XMPP. Alors, XMPP, tout à l'heure, dans l'introduction, on a dit Extensible Messaging and Presence Protocol. Mais excusez-moi pour mon anglais. Hein. En français, donc, protocole extensible de présence et de messagerie. Adrien, donc, c'est quoi, en fait, XMPP?
Ah, je ne suis pas la personne la mieux placée pour définir XMPP, mais je dirais que XMPP, c'est d'abord un protocole avant d'être quoi que ce soit d'autre, et qui n'est pas forcément orienté uniquement messagerie instantanée. Avec XMPP, on fait énormément de choses. Mais effectivement, on peut utiliser XMPP pour gérer une messagerie. Oui, c'est un protocole, comme tu dis, Étienne.
Bah, c'est quoi un protocole? C'est
En fait, c'est, je dirais, une recette afin de définir comment vont se passer des échanges entre plusieurs clients, des serveurs ou non. Voilà, c'est un peu une façon de gérer des échanges dans le protocole.
Alors peut-être que Nicolas Vérité, donc, qui a été membre de la fondation en charge de rédiger ou de documenter le protocole XMPP, est-ce que tu peux apporter des précisions?
Oui, tout à fait. En fait, la personne la mieux placée, c'est Emmanuel, puisqu'il a été au Mans.
Ah bah Emmanuel alors. Vas-y Emmanuel alors.
Pour moi, XMPP, les principales choses à retenir de ça, c'est que c'est libre, donc n'importe qui peut l'implémenter. Que c'est standard, c'est-à-dire qu'il y a un groupe, une association en fait, la XSF, dont Nicolas vient de parler, qui gère la gouvernance du protocole, c'est-à-dire comment vont se passer les évolutions, qu'est-ce qui va... s'il y a un nouveau cas d'utilisation, comment en fait on va se décider tous ensemble de parler en fait la même langue pour échanger entre différents logiciels sur la même base et ouvert, donc que n'importe qui en fait peut utiliser dans son logiciel sans avoir besoin de payer par exemple des droits d'accès aux spécifications ou. Et aussi, chacun peut aussi apporter sa propre pierre à l'édifice des extensions. Et du coup, ça implique que XMPP, quand on parle de XMPP, en fait, en général, on parle pas que du protocole, mais aussi de tout le réseau fédéré qu'il y a autour, avec des multiples clients pour énormément de plateformes différentes, des différents serveurs, qui peuvent être des serveurs logiciels, je veux dire, qui peuvent ensuite être déployés sur un serveur matériel pour ensuite avoir donné accès à un service. Et avec chacun de ces serveurs, en fait, de ces services, pardon, peut avoir les conditions d'utilisation de son choix. Donc, par exemple, il peut y en avoir certains qui vont, comme WhatsApp ou Signal, demander l'utilisation d'un numéro de téléphone, mais c'est pas obligé. On peut parfaitement se créer un compte avec juste en donnant son nom d'utilisateur et c'est bon. On est sur le réseau.
D'accord. Donc, en fait, ça décrit comment des machines, donc là, dans ce cadre-là, décentralisées, vont communiquer entre elles et aussi les clients, s'il y a les logiciels que les personnes utilisent, pour échanger des informations qui peuvent être textuelles, comme on l'a dit tout à l'heure, qui peuvent être des images, qui peuvent être des appels téléphoniques. Donc une différence fondamentale par rapport, si je comprends bien, à ce qu'on a évoqué tout à l'heure, donc au début WhatsApp et ensuite Signal, c'est que on va pas dire aller sur xmpp.org pour trouver toutes les personnes que vous allez avec qui vous allez vouloir échanger. Il faut plutôt trouver un site qui propose des services XMPP. Est-ce que c'est ça, Adrien ?
Oui, c'est un peu ça, en fait. XMPP, c'est vraiment la partie protocole. Si on veut trouver une façon d'accéder à XMPP, il y a quand même, sur xmpp.org, je crois, une page qui présente les différents clients qui existent. Donc, on peut quand même, à partir d'xmpp.org, trouver une façon de retrouver ses amis. Une fois qu'on a trouvé un client, bah là, après, il suffit de rejoindre un serveur, et là, bon, c'est peut-être... je dirais la partie la plus compliquée en fait de la décentralisation, c'est que choisir comme serveur. Là évidemment c'est là qu'il faut faire son choix et qu'il faut apprendre à choisir, j'imagine, mais c'est important d'avoir plusieurs choix puisque c'est la seule façon d'être vraiment libre.
D'accord. Alors, Nicolas, vas-y.
Là-dessus, en fait, sur le site de la XSF qui est à l'adresse xmpp.org, nous on liste quelques logiciels, effectivement. On n'est pas les plus à jour et puis on met tout le monde à égalité. On veut être neutre en fait. On a un point de vue de neutralité. Donc des fois, on présente des logiciels qui sont pas les meilleurs, parfois qui sont un petit peu obsolètes. Bon, ça c'est dit. Maintenant, il y a deux services qui sont formidables, qui sont JabberFR et Chapril. Peut-être que vous pouvez en parler mieux que moi, Adrien et Emmanuel.
Alors on va commencer, Emmanuel. JabberFR.
Oui, JabberFR, du coup, c'est un service où on a pour vocation d'être... un peu un point de ralliement de la communauté francophone sur XMPP. Et donc pour ça, ce qu'on met pas, on met pas en avant notre notre système de messagerie instantanée en fait. On met plus en avant des ressources, c'est-à-dire un wiki, des salons et évidemment aussi des comptes sur lesquels un serveur sur lequel vous pouvez créer un compte. Et donc ça, ça a vraiment pour but d'être un point d'entrée vers le monde de XMPP, vers le réseau XMPP. Et notamment, on encourage les gens à utiliser par exemple leur propre domaine, s'ils en ont un, pour pouvoir migrer sur un autre service s'ils le souhaitent, tout en restant, tout en faisant partie de la communauté du réseau XMPP.
D'accord, donc si... et je, évidemment, Adrien va parler du Chapril. Donc, si une personne veut se... Pas, veut, alors, une personne peut choisir de rester sur WhatsApp, une personne peut choisir d'aller vers Signal, mais si une personne veut se dire, bah tiens, la décentralisation, c'est bien, parce que comme tu l'as expliqué tout à l'heure, Nicolas, bah, ça fonctionne bien dans plein de domaines qu'on connaît depuis longtemps. Voilà. Donc, je vais sur Jabber.fr ou je vais sur Chapril.org et je peux me créer un compte. Mais comment ça marche concrètement? Est-ce que je dois fournir un numéro de téléphone? Comment ça marche la création d'un compte? Et deuxième question, évidemment, essentielle, comment je retrouve mes amis? Donc, Adrien pour Chapril. Et rappelle ce que c'est que le Chapril, s'il te plaît.
Évidemment. Alors, eh bien, Chapril, c'est un chatons. Alors, pourquoi je prononce bien le S? C'est parce que c'est la communauté des hébergeurs alternatifs, transparents, ouverts, neutres et solidaires. Et c'est très important de garder le S de solidaire. Les chatons ont pour objectif de donner une alternative aux GAFAM et autres. C'est-à-dire que ça permet aux personnes de se libérer, de trouver un service qui soit éthique et respectueux de leur vie privée et de leurs données personnelles. Ce que fait Chapril, le travail de Chapril a été de contribuer, que l'April a voulu contribuer à ce formidable projet, en proposant également des services, et notamment un service XMPP, donc, voilà, qui a commencé, je crois, l'année dernière, hein, donc c'est assez récent, mais qui aujourd'hui bah, est tout à fait prêt à donner son, donner son aide. Alors, oui, MMHuman, j'arrive, alors comment ça marche? Eh bien, en fait, sur chapril.org, nous avons un sous-site, chapril.org/xmpp, sur lequel vous avez quelques informations rapides sur XMPP, comment ça marche, pourquoi une nouvelle messagerie, et vous avez la possibilité de commencer immédiatement avec un client qu'on vous propose, c'est-à-dire une application pour vous connecter, selon votre système. Sur la page, vous avez donc, bah, imaginons, j'ai un Android, que faire? Et on vous explique comment installer telle application. Sur un Android, googlisez, c'est-à-dire qui contient des logiciels de Google, on préférera Blabber, l'application donc blabber.im qui permet de s'installer facilement et de créer un compte immédiatement dans l'application en choisissant son serveur dans une liste. Chapril.org est évidemment dans la liste. Si vous êtes sur un téléphone Android non googlisé, par exemple avec LineageOS ou i ou quelque chose d'autre, vous pourrez utiliser Conversation qui sera disponible sur le magasin FDroid, un magasin d'applications Android libre. Et si vous êtes sur un système tel que GNU Linux ou Windows, il y a également des choix possibles, notamment sur GNU Linux, on conseillera Dino, et sur Windows, on conseillera Gajim. Il y a évidemment d'autres possibilités, et ça, vous pourrez tout simplement bah, chercher en allant, par exemple, sur le salon du Chapril, qui, évidemment, vous sera là, dont l'adresse, l'adresse XMPP vous sera donnée dans un message de bienvenue, et vous pourrez aller venir poser vos questions dans le salon. Il y a évidemment le salon de Jabber.fr, on ne les oublie pas, et vous pourrez également rejoindre le salon pour poser des questions. Généralement, en fait, on est tous ouverts aux nouveaux, hein, on aime bien aider. C'est un peu notre chose préférée.
Alors, ce qu'il faut bien retenir de ces explications-là, c'est que il n'y a pas besoin, parce que tout à l'heure, on parlait d'auto-hébergement, il n'y a pas besoin de se dire oh, « je vais installer un serveur pour pouvoir... rentrer dans ce réseau XMPP, on peut le faire hein, si on a les compétences, mais beaucoup plus simplement, donc on va sur un service qui propose déjà la création de compte, donc ça peut être jabberfr.org ou par exemple chapril.org, il y en a d'autres. Hein. Donc la création de compte est très simple, il y a un accompagnement en plus qui est fait avec de la documentation, et comme tu l'as dit, il y a aussi un groupe, un salon de discussion sur le Chapril, chapril.org, qui permet de retrouver d'autres personnes, donc c'est simple à faire. Mais la question qui vient après, c'est comment on retrouve les gens qui sont sur d'autres réseaux. Est-ce qu'ils doivent se connecter sur le même service? Comment on fait concrètement?
Non, pas besoin du tout. Il suffit de s'échanger les adresses comme pour des mails en fait finalement. Il faut voir la décentralisation d'XMPP, qu'on appelle fédération plutôt dans ce cas-là, exactement comme le principe des emails. Vous donnez votre adresse à quelqu'un, il peut vous donner son adresse en échange et vous vous envoyez immédiatement des messages, quel que soit votre serveur ou votre service. En fait, il faut un petit peu voir aussi la décentralisation du point de vue de la gouvernance. Ça va ensemble, en fait. Hein. Moi, je pense ça comme ça. C'est-à-dire que, parce que tout à l'heure, on posait la question, effectivement, chapril.org, Jabber.fr, ce sont gouvernés par des associations à but non lucratif.
Et des gens sympas.
Et des gens sympas. Donc, qu'il ne faut pas non plus prendre pour des chatons. Donc, bon, enfin, pas des chatons, ce sont des chatons, mais voilà, c'est... Voilà. Donc, il faut évidemment comprendre ça comme ça, c'est-à-dire que cette décentralisation permet d'avoir plus d'acteurs, et évidemment, de faire mieux son choix dans... la confiance qu'on va apporter à notre hébergement.
D'accord. Nicolas, Emmanuel, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose ?
Là-dessus, je voudrais mentionner que Jabber.fr est aussi un chaton, comme Adrien le dit. Et que du coup, on pousse la... On aimerait beaucoup que d'autres membres de ce collectif rejoignent notre initiative, en fait. Comme Chapril l'a fait par la suite, et j'espère beaucoup d'autres.
Alors on va juste rappeler que pour le site web de Chaton, quand même, donc les Chatons, comme dit Christian Pierre Momont, hein, c'est chaton avec un s.org sur lequel vous allez trouver plein de services éthiques et libres, dont certains sont proposent des connexions, donc enfin des comptes XMPP, donc permettent de rejoindre la fédération XMPP. Sur le salon web, il y avait une question, est-ce qu'il est possible de migrer d'un service à autre sans perdre de données ? Est-ce que c'est facile à faire ? Ce qui est magique, c'est qu'il y a une réponse. C'est aussi simple que de changer de fournisseur courriel. Il faut prévenir ses contacts de sa nouvelle adresse, un petit peu comme tu l'expliquais tout à l'heure. Alors je regarde le temps qui passe et avant d'aborder les derniers sujets, notamment les mots de conclusion, parce que ça file vite. J'avais quand même deux questions parce que et je crois qu'il y a deux types de publics différents, notamment qui pourraient se poser des questions par rapport à la problématique WhatsApp, Facebook, etc. Donc première partie, les personnes qui sont qui ont un compte WhatsApp, mais qui ont aussi un compte Facebook, et la réaction de la plupart de ces gens-là, en tout cas, bon, j'en ai questionné quelques-uns, la réponse qui disent bon, on a déjà un compte Facebook, donc on n'est plus à ça près. Qu'est-ce que vous répondez à ces personnes quand on leur parle de la polémique WhatsApp qu'ils ont bien vue, hein, mais qu'ils ont, comme elles ont aussi un compte Facebook, elles disent bon, on a déjà un compte Facebook, on n'est plus à ça près. Adrien.
Moi, je répondrais que on est toujours à quelque chose près. De toute façon. Si on prend en compte évidemment que déjà la surveillance est maximale, s'arrêter à un moment, ça veut dire que dans le futur, ce qu'on va faire ne sera pas enregistré. Et donc finalement, imaginons que dans une hypothèse très étrange, j'ai un compte Facebook actuellement, et que ça y est, là je m'arrête, je ferme mon compte Facebook. Bah, ça veut dire que dans les quelques mois qui suivent, je serai en tout cas moins surveillé. Et donc peut-être que je vais faire une action qui n'aura pas été enregistrée et qui ne me vaudra pas d'avoir d'autres problèmes. N'oublions pas que l'enregistrement de données, des données personnelles par Facebook et ces acteurs-là, qui sont évidemment soumis au Cloud Act, comme il était rappelé dans le salon web, hein, une loi américaine qui permet aux services de renseignement américains d'accéder quasiment à porte ouverte au serveur, n'oubliez pas que ces données sont accessibles rétroactivement. Imaginons qu'une dictature se mette en place dans quelques années, et que toutes ces entreprises donnent sur un plateau d'argent toutes ces données personnelles analysables comme ça rétroactivement. Eh ben, on aura quelque chose à cacher et à regretter.
Alors sur cette question, enfin en tout cas sur cette réaction que peuvent avoir certaines personnes, est-ce que vous avez un commentaire, Nicolas ou Emmanuel ?
Ouais, en fait, je remets la question au centre, c'est qu'est-ce que ça coûte ? Qu'est-ce que ça te coûte d'avoir trois applications de mail, trois applications de chat et trois applications de réseaux sociaux par exemple ? Ouais, ils sont tous gratuits. Super. Ouais, mais en fait, tu payes avec tes données à côté. Tu payes avec ton intimité, avec tes relations avec les gens proches. Est-ce que tu es prêt à conserver ça ?
Et d'ailleurs, ça me fait penser, on précise que aller sur XMPP, c'est pas forcément quitter WhatsApp. Il y a des gens qui peuvent avoir plusieurs messageries instantanées en fonction de leur groupe d'amis ou de leur groupe professionnel. On peut très bien découvrir, c'est un peu comme les chatons, on peut rejoindre des chatons pour utiliser des services comme de partage de fichiers, d'images ou d'agenda, sans pour autant tout abandonné de son côté, donc c'est important. Sur son téléphone, on peut avoir plusieurs applications en même temps. Emmanuel, est-ce que sur cette partie, sur cette réaction qu'ont les gens qui ont à la fois un compte WhatsApp et Facebook, est-ce que tu voulais apporter un commentaire ?
Oui, bien sûr. Là-dessus, en fait, je suis assez d'accord avec Nico sur sur le fait que ça coûte relativement peu d'avoir plusieurs applications. Mais pour moi, en fait, ça a été beaucoup plus... J'ai trouvé ça beaucoup plus préférable à une époque où, par exemple, avec MSN, à l'époque, où finalement, en fait, j'avais des relations peu... où, en fait, de leur dire à tous de venir sur XMPP, à l'époque, sur JabberFR, c'était... j'avais trouvé ça beaucoup plus intéressant, au final, humainement. Où c'était un peu comme actuellement avec Facebook, où on va avoir des centaines et des centaines d'amis avec qui on n'a pas forcément envie de partager toute notre vie privée, et avoir une alternative pour eux qui va être beaucoup plus... je veux dire, pour les gens avec qui on a vraiment envie de communiquer, je trouve ça très, très intéressant, en fait.
D'accord. Alors, le temps file, ça va être la dernière question. Je vous avais prévenu avant de cette question, donc j'espère que vous avez préparé. Et je vous précise, restez en ligne après, enfin, écoutez ensuite la soumission, parce que la chronique d'après est aussi consacrée à ce sujet-là, mais je ne sais pas du tout ce que Luc va raconter. Donc j'espère qu'il aura écouté l'émission pour éventuellement en tenir compte. Quels sont, voilà, on a parlé de beaucoup de choses, on a employé plein de mots-clés, alors même s'il y a les références sur april.org et causecommune.fm, en moins de 2 minutes chacun, quels sont pour vous les éléments clés à retenir, enfin, que vous vouliez faire passer? On va commencer par Emmanuel Gilles Perrault.
Garder le contrôle de nos données, de nos communications, c'est au final pas si compliqué que ça. Et que c'est vraiment quelque chose que je conseille à tout le monde. Et par pas si compliqué que ça, je veux dire pas plus compliqué au final que d'utiliser WhatsApp. Qui demande même carrément moins de données. Genre, par exemple, on n'a même pas besoin de donner son numéro de téléphone pour l'utiliser.
D'accord. Mais écoute, merci Emmanuel. Nicolas Vérité.
Alors pour moi, alors j'ai mis des mots-clés. Liberté, indépendance, ouverture, pérennité et écologie dans une certaine mesure. Liberté, pourquoi? Parce qu'on peut choisir son provider, enfin, son fournisseur de service, on peut héberger son propre service, on peut choisir son client. Indépendance des grands, des géants de la tech, qu'ils soient américains, chinois ou russes. Ouverture de ce protocole de communication, du moyen de communication, ce qui garantit, le mot-clé suivant, c'est la pérennité de ce protocole. Il existe déjà depuis 2 décennies et il va continuer. Et pourquoi je dis écologie à la fin? Parce qu'en fait, on réutilise du code et des savoirs qui ont été exploités depuis longtemps, qui ont été mis à jour et revus depuis longtemps. Donc en fait, on ne gâche pas de l'énergie à créer des nouvelles choses qui ont déjà été inventées ailleurs.
Ben, merci Nicolas, en tout cas on sent le professionnel hein, qui prépare bien. Donc la pression sur Adrien Bourmeau pour les 2 minutes de conclusion. Adrien ?
Oui, alors ce que je dirais qu'il faut retenir, c'est qu'il y a des alternatives à WhatsApp. Des alternatives qui sont pas forcément celles auxquelles on s'attend, évidemment, mais bien qu'elles ne soient pas toutes parfaites, ça dépend en fait de ses goûts, de son réseau. Il y a évidemment un prix à payer, la liberté. Je dirais que Signal est une solution, mais elle n'est pas parfaite. C'est déjà mieux que WhatsApp, mais on peut aller encore plus loin. Si on est capable de faire plus, alors il faut aller voir du côté d'XMPP ou de Jamie. On n'en a pas parlé pendant l'émission, mais Jamie est un protocole aussi qui est décentralisé dans une dimension un peu supérieure, disons. C'est le but étant d'aller jusqu'au pair à pair. Mais ça demande encore un peu plus de technique, de savoir. Donc en fait, l'alternative qu'on va choisir va dépendre en fait de nos compétences et de ce qu'on a envie de faire, de ce qu'on a envie de se donner comme moyen. Mais il y a forcément des moyens de se libérer à différentes échelles, et je pense, comme le disait RMS, Richard Matthew Stallman, que chaque pas vers le libre est important.
Ben écoute, merci Adrien. Je vais préciser pour les personnes qui voudraient faire un pas supplémentaire vers le libre, ben les 2 sites de référence, hein, chapril.org, sur lequel vous retrouverez un certain nombre de services, dont la création de compte XMPP, et jabberfr.org aussi, si vous voulez un autre fournisseur de compte XMPP. Toutes les autres références sont sur le site de l'April et sur le site de la radio, donc april.org et causecommune.fm. Donc je remercie donc Adrien Bourmeau, Emmanuel Gilles Perrault, Nicolas Vérité de cet bel échange, et je pense qu'on réabordera ce sujet évidemment dans d'autres émissions. Et je vous précise donc que le sujet d'après, la chronique, est consacré encore une fois à messagerie instantanée. Je ne sais pas ce que Luc va raconter. En tout cas, je vous remercie et puis je vous souhaite de passer une belle fin de journée. Et à bientôt.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Fred.